Bienvenue à bord.
Les passagers de Alan Show sont priés de monter à bord. Alan Show est pris comme équipage de pilote en bon voyage. Attachez votre cœur au support.
Bon voyage, monsieur. Bon voyage, madame.
Bienvenue à bord, les amis. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, D.C. Attachez bien vos ceintures de sécurité. Aujourd'hui, on décolle avec toujours de la bonne musique. C'est l'ambiance dans RM Show, la musique. C'est ce que RM Show. Et bien sûr, on va écouter de la bonne musique R&B et rap, pourquoi pas. Mais aussi, on va continuer à décortiquer notre sujet de cette semaine. Attachez vos ceintures de sécurité. On décolle. Et bien sûr, nous décollons ce soir avec notre sujet de cette semaine, parce que vous avez tous suivi sur VO Afrique le vendredi dernier ce qui s'est passé à Goma. Les Congolais de la diaspora et du pays même en RDC se demandent jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres nous ont-ils écrits sur les réseaux sociaux. Assez, c'est assez, disent-ils, et on en discute cette semaine. Oui, nous plongeons dans cette affaire et vous êtes nombreux à réagir. Merci à Soumaïla Kone qui a réagi hier. On va encore essayer de l'avoir. Il est à Kolda au Sénégal. Merci beaucoup à lui et merci à nos amis qui sont en train de nous capter à Kinshasa, à Goma même, à Bukavu. Si vous êtes en train de nous capter, n'hésitez surtout pas de réagir à cette question parce que ça vous concerne, ça nous concerne tous. C'est au plus 1-703-350-37-31 pour nous écrire un mot, nous envoyer un audio au plus 1-703-350-37-31. Je répète ce numéro, comme ça vous allez bien l'écrire. Et sinon, c'est sur ma page Facebook aussi. Vous trouvez ce numéro. C'est au plus 1-703-350-37-31. Vous avez vu, vous avez suivi sur VO Afrique au moins 9 morts dans un camp des déplacés en RDC les vendredis derniers dans un bombardement ayant touché un camp des déplacés de la périphérie de Goma dans l'est même de la République démocratique du Congo où des combats opposent les forces gouvernementales au M23, mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Nous en parlons bien sûr tout au long de cette semaine et des réactions et des invités. Demain on aura beaucoup d'invités aussi pour en parler dans cette émission de RM Show. Mais on décale bien sûr en musique en attendant vos réactions qu'on va écouter, qu'on va aussi lire dans RM Show ce soir. C'est votre commandant de bord, Roger Muntu. Jean-Louis n'est pas là avec nous, mais s'il est en train de nous suivre, on lui fait un grand coucou à Jean-Louis Mafema. On décale avec Anaconda et Nicki Minaj. My Anaconda don't, my Anaconda don't, my Anaconda don't want none unless you got buns, hun.
Boy, toy named Troy used to live in Detroit. Big, big, big money, he was getting some coin. Was the shootouts with the Lord, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. One in my purse, cause I came just to kill. Who wanna go first? I had him push the daffodil. I'm fly as hell, I got them thirsty jack and feel. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and check him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony, he wants something he can grab.
Check him in my automobile. Let him eat it with his grill. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. Bonjour Roger, bonjour très cher auditeur de la de l'émission RM Show. Moi je m'appelle Baudric Ayeke, j'interviens depuis la RDC dans la ville province de Kinshasa. En fait je voudrais, parce que je vis le sujet de la semaine sur le massacre au Congo et particulièrement à l'Est, c'est vraiment assez, comme c'est indiqué dans les sujets. Alors moi, j'ai eu l'honneur personnel de pouvoir émettre, si vous voulez bien, mon point de vue sur cette question. En tout cas, Roger, c'est vraiment triste et trop regrettable la situation qui se passe dans notre pays. Ça fait déjà, en fait, la guerre ou bien le conflit dure de un peu près de 30 ans. Et puis, tous ces temps-là, les Congolais sont en train de subir les atrocités jamais enregistrées. Jamais enregistrées. On tue les Congolais comme les mouches, on viole les femmes congolaises. Comme on ne peut pas imaginer, les enfants congolais sont dans la situation inhumaine, déplorable, le plus aigu. Chers journalistes, je vous assure que si vous arrivez au Congo et particulièrement à l'Est, parce que déjà il faut dire que le pays est dans une situation, dans une crise que vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, c'est la situation générale. Mais allez maintenant à l'Est, au-delà de tout ce que nous vivons comme souffrance au Congo. Vous partez à l'Est, vous voyez. Je sais que vous avez, parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Vous avez les images, vous avez les informations, mais images. Regardez un peu vous-même ce qui se passe à l'Est. Et ça fait pratiquement 2 ans que nous, cette partie, notamment la province du Nord Kiv et de l'Ituri, sont dans l'état de siège. Et je vais parler principalement du Nord Kiv. Les autorités nous ont dit ici, le gouvernement, que pour combattre les M23, il fallait avoir une armée forte avec les effectifs consistants. Et l'année dernière, il y avait un recrutement de plus de 30 000 hommes. Donc plus de 30 000 Congolais, si je veux dire 40 000 Congolais, femmes et hommes, filles et garçons, se sont mobilisés pour défendre le pays. Et la formation était déjà finie.
Les réactions continuent bien sûr tout au long de cette semaine. Je rappelle qu'au moins 9 personnes ont été tuées vendredi dernier dans un bombardement ayant touché un camp des déplacés de la périphérie de Goma. On a parlé de ça depuis le début de cette semaine. J'ai vu 9 corps qui étaient devant moi, dont plusieurs enfants, a déclaré à l'AFP. Dedesi Mitima, chef du quartier Lac Vert, à l'ouest du chef-lieu de la province du Nord Kivu, un responsable de la société civile locale, a affirmé avoir lui-même compté 8 corps encore hein, sur le lieu du drame et des blessés, dont certains dans un état critique. Et c'est long d'ailleurs, des témoignages encore confus en début de cet après-midi de cette même journée-là. Des bombes sont tombées dans la matinée sur des huttes de déplacés de part et d'autre de la route menant à Goma, à Sake. Cité considérée comme un verrou stratégique à une vingtaine de kilomètres de la capitale provinciale. Pour en parler, bien sûr, notre collègue de service Lingala, Eddy Isango. Un grand plaisir, Eddy, de vous recevoir dans cette émission, comme on a l'habitude de le faire quand on a besoin de vous, surtout pour parler de la RDC. Cette semaine, Eddy, la grande question de cette semaine, est-ce qu'on a eu beaucoup d'appels et beaucoup de messages où les Congolais de cette diaspora, ici aux États-Unis, en Europe et du pays, se demandent jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres, assez, c'est assez, disent-ils. Alors, Eddy, ma première question, quelles sont, d'après vous, ce que vous comprenez, quelles sont les circonstances qui ont mené à au bombardement même du camp de déplacés de Goma?
D'abord, merci Roger. En fait, l'honneur est à vous, plaisir partagé.
Merci.
Faut dire que ça se passe dans les contextes de la guerre entre les M23, les rebelles, que Kinshasa a dit avoir les supports, le soutien du Rwanda, et les FRDC qui sont eux appuyés par les diverses milices qu'on appelle les Wazalendo, les Patriotes. Mm-hmm. Donc c'est dans ce cadre-là. On sait depuis un temps que les M23 ont quasiment encerclé la ville de Goma. D'après ce que nous avons appris, des témoignages même des déplacés qui sont victimes, ils disent que ils croient que ce sont des rebelles qui ont tiré sur les camps des Mugunga en riposte aux attaques que les FRDC, l'armée congolaise, faisait. Parce que l'armée essaye quand même avec les Wazalendo de récupérer les alentours de Goma. On sait que ça qui est quasiment aussi tombé il y a une semaine, les rebelles avaient menacé de prendre ça.
Exactement.
Et plus tard que la semaine dernière, les rebelles avaient aussi pris la ville stratégique minière de Rubaya. Je crois qu'on sait, ça fait très très mal à beaucoup de Congolais. Rubaya, c'est la ville ou la cité où l'on trouve beaucoup de minéraux stratégiques comme les coltans.
Ah, c'est là où le coltan
comme
se trouve.
Cassiterite et autres. Donc c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Et merci Eddy, merci de nous éclaircir un peu là-dessus. Et vous couvrez la RDC abondamment. Alors pouvez-vous nous fournir des informations sur la situation actuelle depuis vendredi dernier? Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que vous avez entendu de ce coin-là?
Je me baserai sur ce que j'ai eu aujourd'hui. J'ai interviewé les responsables de la communication de la Croix-Rouge qui s'occupe de déplacer, comme il s'agissait des camps de déplacer. Il s'appelle Rigen Kimbalé. Et il m'a dit que ces camps sont quasiment vidés de déplacés, des gens qui étaient là, qui en fait étaient déjà des déplacés d'autres camps. Ils sont là depuis quelques temps, désemparés, mais bon. Ils croyaient avoir la sécurité là-bas près de Goma, mais quand les bombes tombent, un grand nombre fouillent, ne sachant où aller. Ils traînent dans les rues. On les voit aujourd'hui en train de demander, de frapper aux portes à Goma pour demander de l'aide. Mais il y en a qui sont restés et dans les désespoirs parce qu'ils n'ont pas où aller. Et certains dorment à la belle étoile, mais ils sont à la merci des bombes.
Ils sont à la merci des bombes en ce moment. Une situation, en tout cas, qui effraye. Reste avec nous, Eddy. On va voir qui nous appelle en ce moment. Michel, qui on a en ligne en ce moment? On a Mabinchi en ce moment et elle est à Kinshasa. Mabinchi, bonsoir.
Bonsoir Roger. Bonsoir à tous les auditeurs de RM Show.
Merci Mabinchi. On voulait vraiment vous avoir en live, en direct aujourd'hui. Je suis ici avec mon collègue Eddy Isango. Et vous êtes à Kinshasa en ce moment, n'est-ce pas?
Oui, je sais
si c'est
ça.
D'accord. Alors, je sais que Mabichi voulait continuer à réagir à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous qui êtes à Kinshasa? Qu'est-ce que vous entendez de la situation là-bas aujourd'hui?
Oui, je voulais continuer à ce sujet. Comme on continue avec ça, c'est notre sujet de la semaine.
Bien sûr.
Donc, ce que nous, nous attendons, nous, nous entendons ici, c'est très grave, Roger. C'est vraiment très grave. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas expliquer parce que ça dépasse aussi. Tu vois, moi j'ai un frère au front. Il n'est pas un frère du sang, bien sûr, mais on a grandi ensemble. J'ai aussi un neveu là-bas. Quand il m'appelle, quand on communique avec tous ses amis, ils viennent, on communique, on rigole. Et moi, je les ai même surnommés déjà des récupérados. Parce qu'eux, ils attendent seulement que le M23 puisse prendre des territoires. Et puis, eux, ils partent seulement pour récupérer. Et quand je les appelle comme ça, on rigole. Tu comprends? Donc, il nous donne aussi des nouvelles de là-bas. Qui fait vraiment trop mal au Roger. C'est pourquoi je me te disais depuis hier, est-ce que nos dirigeants, nos autorités, ils n'attendent pas ça, et ils ne voient pas ça, ce qui nous dépasse un peu. Comment c'est possible, Roger? Est-ce que tu peux comprendre ça? Quelqu'un qu'on soupçonne déjà qu'il collabore avec le M23, qu'il est en communication avec les ennemis. Et c'est celui-là qu'on va mettre encore un chef de file pour diriger le combat. C'est vraiment très louche, Roger. Parce que nos Ouazalendo, ils sont de sang chaud, chaud là. Quand ils veulent réagir, il y a quand même quelqu'un qui sort pour crier ou cesser le feu. Tu comprends, Roger?
Oui.
C'est vraiment très grave. C'est comme si il y a des accords signés avec les diables pour verser le sang des Congolais. Ce qui n'est pas aussi normal, Roger. Ce que je voulais vraiment poignarder pour aujourd'hui, moi, je ne trouve pas l'importance de certaines nominations dans notre pays. C'est pourquoi je te disais depuis hier que je commence à trouver que tout le monde est bon. Quand on a nommé certaines personnes ici, hein, par exemple, excusez-moi de citer, par exemple, les FM de la Défense, tout le monde était content. Tout le monde était content. On s'entendait à des résultats à la taille de la RDC. En voyant seulement notre ministre, hein, on voit comme ça un homme de guerre. Parce que même dans la Bible, des nations, ils avaient des hommes de guerre, leurs hommes de guerre. Dans ma langue, à moi, au Kassai, on les appelle Moulumba Babukitu, quand on regarde seulement notre ministre, tu regardes comme ça, tu peux commencer à avoir peur toi-même. Mais pourquoi nous devons subir l'histoire de Goliath et David? Et pourquoi c'est notre pays qui doit porter cette honte-là de Goliath, alors que ce n'est pas nous qui avons provoqué le Rwanda? Ce n'est pas normal, hein, Roger?
Alors, ma Mabichi,
ouais. De résultats à notre taille.
D'accord.
Mais on est dessus.
Alors, Mabichi, hier, vous étiez en train de dire que vous ne voulez blâmer personne. Et pendant ces temps, on avait Michel Mafoukou qui nous capte à Matadi aujourd'hui, que lui a accusé son gouvernement, disant que son gouvernement ne fait rien du tout pour aider le peuple congolais. Et donc, aujourd'hui, tu t'es rallié un peu à ce que Michel Mafoukou avait dit hier.
Il a raison. Il a totalement raison. Comme je viens de le dire, non? Je viens de le dire, certaines nominations dans notre pays n'ont pas d'importance. Vraiment. Même les gouvernements qui sortent, même les gouvernements qui vont venir, moi, en tout cas, je ne condamnerai personne. Parce qu'on ne comprend rien. On ne comprend rien. Donc, il n'y a pas. Ils ne sont même pas condamnés, ils ne sont même pas aussi proposés. Parce qu'on ne comprend rien. On va proposer à quelque chose qu'on comprend. Tu comprends au moins, Roger?
Attends, ma biche, il y a mon collègue.
Le gouvernement, comme ouais. Par exemple, je peux te donner. Moi, j'ai des images. Hein.
Ouais.
Tous les jours, on m'envoie des images.
Ouais.
Il y a une image qui circule. On m'a envoyé ça depuis longtemps. Moi, je ne voulais pas publier. Violé par trois hommes, trois rebelles. Vraiment, Roger. Des images comme ça, nos dirigeants, pourquoi ils peuvent regarder et laisser passer que c'est parce que ou c'est parce que ou parce c'est le fait. Ce que je ne comprends pas, Roger, ce que nous ne comprenons pas, quand on dit la guerre, quand les autres réagissent, d'autres répliquent. Et pourquoi notre pays doit croiser le bras? Nos voisins nous le disent. Quand ils veulent réagir, il y a des chefs de file, il y a de leurs dirigeants là-bas qui leur disent non. Il faut pas réagir, il faut laisser. Mabichi, laisse-moi
passer la parole à mon collègue Eddy Sango qui a une question pour toi.
En fait, c'est pas une question, c'est pour dire que la situation n'est pas aussi facile que l'on croit. C'est très complexe et les gouvernements laissaient.
Comme Mabichi dit aussi.
Oui, les gouvernements de la RDC laissaient. On sait que l'armée congolaise est depuis bien longtemps désarticulée. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème des les autorités les savent. Bon, peut-être qu'il faut résoudre ces problèmes en recréant à la base l'armée. Mais je me base sur le fait. D'abord, hier, il y a eu cette réaction du gouvernement qui a demandé plutôt aux facilitateurs ou aux médiateurs de ces conflits entre la RDC et le Rwanda prendre ses responsabilités par rapport à ces bombardements. Ils ont dit qu'ils, bon, en fait, ils veulent bien reprendre les négociations, mais donc ils demandent que les autorités, plutôt João Lourenço, qui est le président de l'Angola, les fassent. Mais on sait aussi que les gouvernements, ce sont de fait, est en train de juger ou a jugé récemment. D'ailleurs, les condamnations sont tombées il y a 2-3 jours. Huit militaires qu'on a accusés d'abandon et de lâcheté d'abandon ou de fuite devant l'ennemi. Je crois que quelque part ils essayent de trouver des solutions et il y a cette peine de mort qu'on a levé les moratoires sur la peine de mort et ces gens ont été condamnés à la perte. Peut-être ça ne résout pas le problème, mais ça, ce sont des éléments qui peuvent aider quand même à résoudre tant soit peu le problème. Mais le problème, comme madame l'a dit, est de fond. Il faudrait peut-être refondre l'armée, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui.
C'est
depuis Mobutu qu'on le sait, et on parle d'infiltration, on parle de c'est un peu ça.
C'est un peu ça. Merci, Eddy. On va prendre aussi notre ami Mr. Kiaku himself, Kisombe, en ligne. Monsieur Kisombe, Kiaku, comment ça va?
Ça va, Roger Moutou, bonsoir à toi et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est une surprise. On voulait vraiment te surprendre et t'avoir, Kisombe Kiaku lui-même en ligne. Écoute, on voulait juste te poser une simple question, Kiaku. Cette semaine, en tout cas dans cette semaine, dans RM Show, on parle, beaucoup de Congolais nous ont appelés, de la diaspora et de partout dans le monde, qui se demandent jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres à l'est de la RDC. Et ils disent assez, c'est assez. Qu'est-ce que, je rappelle que Kiaku est un journaliste, notre collègue de B1, qu'est-ce que tu entends là-bas à Kinshasa, hein? Qu'est-ce que les Congolais disent à propos de ce qui se passe à l'Est, hein?
Bah, écoute, on a tous été surpris. On s'est tous réveillés avec cette mauvaise nouvelle du camp de Bugunga, de cette bombe qui a éclaté, où il y a eu nombreux de nos compatriotes qui ont été décédés. Écoute, nous, de notre côté, on a pris la nouvelle comme tout le monde et on attend qu'une action soit faite contre le Rwanda. Ok, d'accord? Parce qu'on a vu pendant la campagne le chef de l'État, François Tshisekedi, dire qu'à la moindre escarmouche contre Goma, la RDC aurait répliqué. Et là, ça fait une semaine que ça dure. Il y a des familles qui sont endeuillées une fois de plus. Il y a des familles qui sont déplacées. Et on aimerait quand même avoir une action du gouvernement pour que cette action, en fait, puisse mettre fin. Il y a eu la Cinco, il y a eu le cardinal Ambongo qui a fait un communiqué pour demander à ce gouvernement de ne pas laisser ces actes de barbarie, ces actes de meurtre envers la RDC, et que ces actes ne restent pas impunis. Moi, je suis à Kinshasa, et toute la République, toute la ville suis indigné par rapport à ces actes. Ça fait 20 ans que ça dure. Il y a une semaine encore que nos compatriotes ont été touchés. Et on en a marre. On en a marre. On veut vraiment la population. En tout cas, vraiment une action du gouvernement et une action du chef de l'État, comme il avait dit à la moindre escarmouche. Cette phrase est restée dans la tête des Congolais pour justement remédier à cette situation. Mais on a comme l'impression que c'était juste une parole et que les actions ne valent pas à cette affaire. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On en a marre, nos compatriotes qui partent à gauche et à droite, précisément à Goma. Et je salue le peuple de Goma qui me suit en direct. On en a marre, on veut vraiment que quelque chose soit fait pour cette ville. Ce peuple a longtemps été meurtri, ça fait 20 ans que ça dure, il faut vraiment que quelque chose soit fait.
Mais du coup, Kisumbi, Kiaku, à Kinshasa, qu'est-ce que le gouvernement congolais dit, vous qui êtes sur place, qu'est-ce que vous entendez?
Jusque-là, il faut qu'on se le dise, il y a une première ministre, une femme qui a été nommée à la tête du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore établi son gouvernement. Jusque-là, le gouvernement actuel, il se dit les affaires courantes, mais jusque-là, le chef de l'État était en séjour en Europe, il est revenu dimanche soir en date du 5 mai, aucune déclaration n'a été faite, on ne sait pas ce qui se passe, c'est dans les spéculations qu'on entend que oui, il y aura une riposte envers... Kigali, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, en tant que journaliste, je ne peux pas donner une position qui vient de moi. Une position qui vient de moi, on attend une déclaration, soit du porte-parole du gouvernement, qui est Patrick Muller, ou soit justement du chef de l'État, qui lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, mais ça fait deux jours, jusque-là, on entend, et rien n'est encore dit. La population, comme moi, comme la population, on attend toujours ce qui doit être fait. Parce que comme je disais, Roger, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait une semaine que la population de Goma a encore été frappée par une attaque. On se demande qu'est-ce qui se passe. Donc moi, pour ma part, ce que je peux faire, c'est en appeler encore une fois à l'attention du chef de l'État pour que cette population de Goma puisse enfin avoir la paix. On en a marre de voir que ça fait 20 ans que ça dure. Depuis 1997, c'est toujours des guerres, c'est toujours des bombes, c'est toujours des attaques. On en a marre. Moi, j'en appelle au chef de l'État, j'en appelle au gouvernement actuel, bien qu'il est finissant, en attendant que la nouvelle première ministre établisse son équipe. On en a marre, quelque chose doit être fait pour nos frères de Goma.
Kisumbi Kiaku, je rappelle que vous êtes journaliste de B1, notre collègue là-bas, et notre radio-télé correspondant, enfin partenaire de VOA. Merci infiniment, hein, Kisumbi Kiaku, pour ce temps que vous nous avez accordé. Et surtout, bonne nuit là-bas chez vous.
Merci à toi, Roger Moutou. Merci à tous ceux qui me suivent en direct de la Voix de l'Amérique.
Super. On respire un peu à musique, Michel. Nous revenons dans un instant avant de continuer avec notre collègue Eddy Issango.
Never stop, it's how we ride. Roller coaster till
vous écoutez RM Show, une émission de VAfrique en direct de Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Bien sûr, nous parlons de la situation à l'est de la RDC cette semaine dans RM Show parce que vous étiez nombreux à réagir à ce sujet et à nous écrire tout au long de le week-end dernier et même de cette semaine. Vous êtes nombreux à réagir à ce sujet. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons ce privilège de recevoir notre collègue Eddie Isango, notre collègue du service Lingala de VOA Afrique. Eddie Isango, nous avons aussi vu que le Rwanda récuse l'accusation absurde dite de Washington concernant une attaque, cette attaque en RDC. Le Rwanda a récusé, c'était le samedi, le jour juste après. Ils ont appelé ça absurde, cette accusation-là, selon laquelle les forces armées rwandaises sont à l'origine d'un bombardement sur un camp de déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a fait au moins, on l'a dit, 9 morts. Comment parvenez-vous à cette conclusion absurde? Les FDR, Forces Armées Rwandaises, une armée professionnelle, n'attaquerait jamais un cas de déplacés, a réagi sur les réseaux sociaux X, la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Je ne sais pas, Eddie, quelle est vraiment la réaction du gouvernement américain à ce sujet?
Il faut dire que le gouvernement américain a réagi par le département d'État. Il y a d'abord l'un de porte-parole qui s'appelle Matthew Miller qui a condamné une nouvelle fois ces attaques et qui a dit que les Rwanda devraient absolument retirer ses troupes du sol congolais, de la RDC, et cesser tout appui aux rebelles du M23. Donc ils l'ont dit clairement, c'était plus clair que jamais, une nouvelle fois que les États-Unis l'ont dit. Il faut dire que les États-Unis ne sont pas les seuls. Il y a aussi la France, il y a aussi même l'Union européenne et l'Union africaine qui ont aussi dit la même chose, condamnant le Rwanda, demandant que le troupe rwandaise quitte les sols congolais. Donc c'était un peu plus clair, mais vous avez lu ici la réaction du gouvernement de Kigali avec la réponse de un peu à la limite de l'insolence de Makolo, de Yolanda Makolo.
Qui est la porte-parole même du... comment vous évaluez un peu, Eddie, parce que vous parlez souvent avec les gens aussi à l'est de la RDC, comment vous évaluez l'impact de ces bombardements sur les populations civiles? Parce qu'on a vu les images sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez appris, à part ces 9 morts? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il y a eu d'autres, destructions massives d'autres... Enfin, je sais pas moi. C'est quoi vraiment les... Comment vous évaluez tout ça?
Là où les bombes sont tombées, faut dire que c'est là où les déplacés étaient, avec des tentes, avec des huttes, parfois. Vous voyez les bâches mélangées aux herbes pour des abris comme ça, des fortunes. Bon, ça n'a pas touché vraiment la ville, mais ça a touché ces sites des déplacés. Ça, c'est sur les plans dégâts matériellement. Il y a les dégâts humains. Il y a eu au moins une dizaine de morts, dépendant des sources. Et une vingtaine de blessés. Bon, l'impact, c'est beaucoup plus moral parce que les traumatismes s'est accru. Les gens qui étaient déjà traumatisés, qui avaient fui là où ils habitaient, certains c'était déjà des déplacés à répétition et qui sont obligés de fuir encore. Vous voyez, c'est que ça. Et même ceux qui ne sont pas dans les camps sont traumatisés par cela. D'ailleurs, hier à Goma, il y a eu une manifestation de pas seulement des déplacés, mais aussi de mouvements citoyens, des organisations de la société civile qui ont utilisé la voix pour dénoncer cela et demander des sanctions. Mais je devrais quand même aussi ajouter,
bien sûr,
répondre à notre collègue de Kisumu Kiaku.
Oui.
Il y a eu une réaction hier du gouvernement, et dans cette réaction, le gouvernement demande des sanctions de la part de la communauté internationale à l'endroit du Rwanda. Donc,
mais ça, c'est quelque chose aussi, Eddie, soyons d'accord, que ces mêmes Congolais de la diaspora continuent à dire, ben oui, on a déjà entendu cela plusieurs fois. Oui, vous demandez des sanctions, mais qu'est-ce que vous faites en tant que gouvernant pays? C'est ça aussi ce que ces Congolais de la diaspora.
Je vais ajouter d'abord, en plus du gouvernement gouvernement national. Il y a eu les gouvernements du Nord Kivu qui a demandé à la Cour pénale internationale des sanctions et même, en fait, parce que attaquer un camp de déplacés, c'est un crime contre l'humanité, un crime de guerre. Donc, ils ont demandé que la CPI se saisisse du dossier. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce qu'ils déclarent. Ils ont déclaré même dans les communiqués qu'ils vont tout faire pour assurer la sécurité des...
Parce qu'il faut dire que ces gens-là connaissent aussi des défis humanitaires complexes aussi. Hein. Ils sont confrontés à ces défis.
Mais c'est ça, en fait, les problèmes. Quand on parle déplacés, c'est... Bon, faut dire que c'est l'humanitaire et la crise s'accroît. Ils sont dans une situation très difficile, très complexe. Bon, maintenant, peut-être les gouvernements ne disent pas tout. On sait que le président de la République avait promis et on sait aussi que les gouvernements, depuis un temps, on avait levé l'embargo sur les armes contre la RDC, les gouvernements acquis un certain nombre d'armes, on parle de drones, on parle, il y a même d'instructeurs de certains pays que je ne peux pas citer ici, dont la France, ça c'est connu, les présidents étaient en France pour ça. Bon, peut-être ça les gens ne savent pas, mais la situation n'est pas aussi facile sur les terrains, c'est complexe. C'est d'abord une zone montagneuse. Et en plus de ça, comme on dit, il y a des infiltrations et beaucoup d'autres choses que vous voyez. Donc,
c'est pas infiltrations qui n'aident pas, qui ne facilitent pas non plus la tâche de finir.
Pas du tout.
Pas du tout. Mabinti est de retour avec nous. Mabinti, on a vu des images. Vous avez parlé de ces images qui ont fait le tour ce week-end et continuent à faire le tour. On a vu une femme qui avait été tuée et elle avait un enfant sur son dos et l'enfant, on l'a pu, l'enfant était encore en vie. Vous, en tant que femme, qu'est-ce que ça vous fait aussi hein? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que j'ai vu aussi vos réactions sur les réseaux sociaux.
Comment est-ce que ça fait mes soeurs et tant que femme, Roger, ça doit faire toujours mal, Roger. Ça doit faire mal. Je voulais un peu répondre à notre frère Eddie Sango.
Oui.
Mon frère, demander de sanctions, c'est bien bon. Demander des sanctions, ce n'est pas mauvais, c'est bon, c'est bien même. Mais tu es un père de la famille. Des voleurs viennent, ils entrent dans ta maison, violent ta femme et tuent tes enfants. Tu restes là, bras croisés, tu attends pour aller porter plainte au commissariat le matin. C'est ça? Vraiment, Roger, je profite pour lancer cet appel à notre gouvernement. Moi, je suis de la nouvelle société civile. Donc, je lance cet appel à notre gouvernement. Vous voyez le soleil qui brille à l'est aujourd'hui. Demain, le soleil brillera sur nos têtes. Vraiment, ce n'est pas normal, mon frère Eddie Sango. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas dire que non, parce qu'il y a des démarches pour demander des sanctions. Le gouvernement a demandé des sanctions et nous devons toujours continuer à regarder comme ça. Ce n'est pas normal, mon frère. Par exemple, comme l'image que Roger vient d'évoquer là. Vraiment, qui n'a pas pleuré en regardant cette image-là? Qui n'a pas pleuré? Voir l'enfant, on a tué sa maman, maintenant on cherche où amener l'enfant. Vous voyez un peu, le temps que les parents, même si ce n'est pas votre enfant, même si ce n'est pas un membre de votre famille, mais tant que parents, qu'est-ce que ça vous fait au moins? Qu'est-ce que ça vous fait? Ce n'est pas normal, des sanctions-là. On a vraiment entendu cette chanson-là depuis longtemps déjà. On est même fatigué de cette chanson-là, de demande de sanctions, attendre ceci, cela, des décisions, ceci, cela. Tu vois, ça fait mal, Roger. Ce n'est pas normal.
Eddie, tu voulais réagir à ce que... Eddie veut réagir. Eddie, vas-y.
Je dois répondre à notre auditrice, Mabinchi, que je suis autant blessé, peut-être plus que toi, que vous. Mais ici, je n'ai fait, en fait, ce que dire... c'est que le gouvernement, il n'y a pas quelqu'un du gouvernement ici. Moi, je ne suis pas du gouvernement. Je n'ai fait que dire ce que le gouvernement a dit. Vous savez, la guerre aussi, ça c'est la logique, ou même c'est connu sur le plan international, ne se gagne pas qu'avec les armes. Les gouvernements font la guerre et autres. Mais comme je disais que c'est complexe, il faut peut-être aller par des voies de diplomatie. Et si on doit faire la guerre comme vous le demandez, il y aura des morts en plus, hein, des soldats qui meurent et des civils, même si les gouvernements congolais étaient décidés aujourd'hui d'attaquer les Rwandais, ça sera des morts en plus. Donc je ne suis pas dans ce sens-là, mais je veux pas aller dans ce sens-là, mais je dis simplement que ici c'est un peu pour faire la balance. Donc j'ai dit que le gouvernement a dit ceci et j'ai parlé ici de la Croix-Rouge. Ça veut dire qu'on est aussi touché et on veut voir vraiment la situation sur place. C'est pas pour rien qu'on est allé demander aux gens de la Croix-Rouge aujourd'hui, par exemple, quelle est la situation sur le terrain. Et il nous l'a décrit. Je parle ici des personnes qui ont été déplacées à répétition et qui sont maintenant dans la rue. Et vous n'êtes pas à Goma peut-être, mais si vous demandez aux gens qui sont à Goma, ils sont en train de frapper aux portes pour demander un pain, un peu d'eau, ils n'ont pas où dormir. Donc c'est un peu ça. Mais la situation, la solution, on doit aller par toutes les voies comme vous le souhaitez. Pour résoudre, moi aussi je le souhaite, en fait.
Allô?
Oui, on vous écoute, ma bise.
Allô, mon frère est dit Sango. En fait, je voulais ajouter un peu ça, hein, de ce que tu viens de dire là. Donc, je ne sais pas si tu me comprends au moins. Donc, attendre le demande des sanctions, il y aura des morts comme tu l'as dit là. Mais jusque là, le M23 là, on ne connaît pas d'où ils sont sortis. Donc ils sont là, les enfants rebelles, on ne connaît pas leur famille. Mais comme c'est déjà connu que c'est le Rwanda qui est derrière, au Rwanda, il n'y a pas de morts. C'est seulement chez nous qu'il y a des morts. Autant mieux que de part et d'autre, qu'il y ait des morts une fois pour nous. Parce que si la RDC réagit une fois seulement, deuxième fois, le Rwanda aura aussi peur. Vous voyez, il aura aussi peur. Mais pourquoi vous voulez que... Bon, parce qu'il y aura des morts. Mais jusque-là, c'est seulement chez nous qu'il y a des morts. Aujourd'hui, 10 morts. Demain, 10 morts. Après, demain, 10 morts. Dans l'entretemps, nous, on enquête déjà 30 morts. Aussi longtemps que là-bas, au Rwanda, aucun mort. Vous voyez un peu...
Madame, moi je comprends bien ce que vous dites, mais peut-être vous regardez seulement d'un côté. La guerre qui s'est fait là-bas, en fait on a des morts, des victimes de tous les côtés. Peut-être qu'on les compte pas du côté M23. Et ici il y a aussi des soldats rwandais, ils en meurent en fait en grand nombre. On n'est pas sur terrain, on ne nous montre pas tout, on ne nous dit pas tout. Hein? Quand l'armée attaque ou les Wazalendo, ça veut dire qu'il y a aussi des morts de l'autre côté. Ça, personne ne le sait parce que c'est peut-être des secrets. C'est des secrets.
Bien sûr, du côté de M23, mon frère, pas au Rwanda là-bas. Mais aussi longtemps que c'est chez nous qu'il y a des morts, des civils. Quand il y a de l'autre côté, c'est parmi eux, le M23 là. Ce n'est pas au Rwanda. Mais aussi longtemps que chez nous, il y a des. Nos héros qui tombent, il y a aussi la population qui tombe. Vous voyez un peu.
Hey, Mabinti, une question pour vous. Qu'est-ce que vous demandez à votre gouvernement si vous écoutez aujourd'hui?
Je te dis ce que je t'avais déjà dit. Je suis de la nouvelle société civile. Moi, jusque-là, je ne sais pas quoi demander, je ne sais pas quoi proposer. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Que nous sommes là pour critiquer seulement, non. Mais on va proposer quoi?
Moi, par ailleurs, j'ai une autre question pour elle.
On va proposer quelque chose qu'on comprend. Mm-hmm. On ne comprend rien, Roche. On va proposer quoi?
Quoi? Ok. Eddie Sangwa, une question pour vous. Eddie.
Comme je disais ici, vous êtes de la société civile et vous le savez autant que moi que la guerre ne se gagne, aucune guerre ne se gagne par les armes simplement. Il y a ces procédures, il y a deux procédures, les processus plutôt, les processus de Luanda et de Nairobi aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Qu'est-ce que vous souhaiterez qu'il soit fait pour qu'on puisse résoudre ces problèmes et avancer et arriver à une solution? Vous voyez, même au niveau de Gaza, au niveau d'Israël, aujourd'hui on parle de négociations malgré tout ce qui s'est fait, donc pour arriver à une solution à la paix. Qu'est-ce que vous souhaiterez?
À ce niveau où nous sommes déjà, donc c'est à la limite déjà. C'est à la limite. Ce qu'on peut proposer, c'est seulement la guerre. C'est seulement revendiquer. C'est seulement répliquer aussi. Mmh. Ce que nous pouvons seulement proposer, parce que là, on va proposer encore quoi, Eddie? On peut proposer quoi? On veut ça pour qu'on arrive là, pour qu'on... Tout ça, on avait déjà proposé et ça n'avait rien donné. Et ce n'est pas qu'ils avaient appliqué ça, non. Il y a ce qu'on avait proposé, ils n'ont pas voulu impliquer. Et voilà où ça nous...
Vous serez prête à prendre les armes et aller sur le terrain mourir pour, parce que vous parlez des guerres au lieu de chercher des solutions de paix?
Pardon.
Serez-vous prête à prendre les armes aussi et aller sur le terrain hein, au lieu plutôt de chercher une solution de paix?
Mon frère est dit, tu vois, moi, tel que je suis là, si on me donne une arme aujourd'hui, je peux aller. Je peux aller pour être ensemble avec mon frère, lutter ensemble avec mes frères. Tu comprends? Donc, il y a personne qui peut avoir encore peur de la mort à cette étape où nous sommes déjà. Parce que ça ne marche pas et nous ne savons pas quelle sera
quand vous proposez une guerre, vous ne savez pas, on personne n'est...
Ouais, attends, que finisse, j'ai dit. Vas-y, ma bitch, ouais.
C'est à l'est, nous voyons ça de loin. Hein. Quand ça sera au capital ici, je ne sais pas. Si ceux qui dorment en paix, ils vont continuer.
Vous savez bien qu'on dit qu'on sait, on sait quand on commence une guerre, on sait qui commence une guerre, mais on ne sait pas qui la gagnera. Hein, vous savez, donc.
Oui, mon frère est dit, moi aussi j'étais de ceux-là qui ne voulaient pas de la guerre dans notre pays. Mais à ce niveau où nous sommes, il faut répliquer.
J'essaie. Ceux qui sont au gouvernement réfléchissent et ceux qui sont... Vous voyez, la communauté internationale appelle à la désescalade. On ne voudrait pas désescalade, comme on dit plutôt en français. Je parlais en anglais parce qu'on est ici. On ne voudrait pas que la situation s'embrase davantage, comme on disait. Bon, il y a lieu de s'entendre autrement par la paix et... Bon, en fait, les Rwandais rentrent chez eux d'ici y en a, les Congolais règlent leurs problèmes ici.
Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Ce lien-là, il n'y en aura pas. Depuis on a entendu ça, ça viendra quel jour?
C'est ce que, en tout cas, beaucoup de Congolais de la diaspora sont en train de dire exactement ce que Mabichi dit. Merci beaucoup, Mabichi. Merci. On dit merci à Mabichi. On respire en musique avant de recevoir aussi notre collègue Georges Léonard Sagnon. C'est tout de suite. Vous écoutiez RM Show, une émission de Véafrique en direct de Washington DC. La situation en RDC cette semaine, bien sûr avec nos collègues journalistes de Véafrique, on en parle. Et aussi nos auditeurs partout dans le monde réagissent. La grande question cette semaine, c'était les Congolais de la diaspora et du pays se demandent jusqu'à quand ces atrocités et ces massacres assez, c'est assez, disent-ils. Georges Léonard Sagnon, notre collègue qui vient se joindre à nous. Georges, ton pays d'adoption, que tu aimes bien, le Congo. La situation, on a vu ce qui s'est passé le vendredi dernier, parce qu'on a couvert cela ici, sur VOA Afrique. Et bien sûr, on en parle cette semaine dans RM Show. Cette situation, Georges, les Congolais disent assez, c'est assez. Parce qu'ils disent, ils ont beaucoup entendu parler. On a écouté, vous avez écouté ensemble avec nous, Mabinti. On a écouté Kisombe. On a écouté hier Michel Mafoukou. Beaucoup de nombreux sont en train de dire ce qu'ils sont en train de dire. Je sais que Georges, en tant que journaliste aussi, tu suis ce qui vous suivez, pardon, ce qui suit ce qui se passe dans le monde et bien sûr en RDC en particulier. Votre point de vue là-dessus.
Roger, le Congo pleure. Et quand le Congo pleure, c'est l'Afrique qui pleure parce que le Congo, c'est le plus grand pays aujourd'hui et qui est bien situé, malheureusement, qui est situé au centre du continent. Et on l'a toujours dit, si le Congo se développe, c'est l'Afrique qui se développe. Vu la richesse de ce pays, la Guinée, mon pays d'origine, c'est le pays du Congo. Vous comprenez, en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce qui se passe au Congo touche tout le monde. En tout cas, hier, quand j'étais de l'autre côté de la belle vitrée en train de réaliser, même les ingénieurs qui sont des Américains qui ne comprennent pas français, quand ils ont vu les images circuler, les b-rolls, ils ont été touchés. Des femmes avec un baluchon sur la tête, bébés au dos, et qui tirent même, tu vois, les animaux domestiques, les chèvres qu'on tire pour les amener. Où, Roger, je pense que Eddy l'a dit tout à l'heure, une guerre, on sait toujours comment ça commence, mais on ne sait jamais comment elle se développe et comment elle se termine.
Elle va finir, elle se termine, voilà.
Et toutes les grandes guerres.
On a vu ce qui s'est passé en Ukraine, voilà, aussi. On s'était dit que ça allait prendre 2-3 semaines.
Voilà, on a vu la première, la première et la deuxième guerre mondiale. On a vu comment ça a été atroce, horrible, mais elle a quand même, elles se sont terminées autour d'une table de négociation. Et ce que disait Eddy tout à l'heure, je crois qu'il n'a pas tort. Se battre, je vois aujourd'hui comment les Congolais sont en colère. Et je pense que il faut essayer de réévaluer. Vous voyez, même à Kinshasa aujourd'hui, je crois que le nouveau gouvernement n'est toujours pas formé.
Toujours.
Ça, c'est un problème à l'interne aussi. Quand un pays n'a pas de gouvernement, comment ce pays-là peut fonctionner? C'est un blocage à ce niveau-là. Et donc, il y a des problèmes internes qui sont très sérieux et la guerre a perturbé tout. Et donc, moi, je me dis, je propose quelques pistes de solutions. Je pense que la diaspora doit jouer un grand rôle. Il faut qu'elle commence à faire des sensibilisations, des conférences ici, aux États-Unis, en Europe et même en Afrique, dans les autres pays. Parce que, vous savez, je vous donne l'exemple d'Ebola. Quand Ebola a éclaté en 2014 en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas assez d'informations là-dessus. Mm. Moi qui vous parle, j'ai été au congrès ici et les sénateurs me disaient, on croyait que l'Ebola est maîtrisée. On leur a dit non, puisque moi, la Guinée était répuissante. Et le Libéria. Et donc, je suis parti au congrès avec des frères libériens, des frères sierra-léonais et quelques bonnes volontés, quelques philanthropes américains pour aller sensibiliser les sénateurs pour leur dire que ça ne va pas. Il faut que l'Amérique se lève pour faire quelque chose pour aider ces pays d'Afrique de l'Ouest. En quelques mois, on a eu combien de... En 2 ans, 3 ans, on a 11 000 morts ou plus en Afrique de l'Ouest. Et donc, il faut sensibiliser. Il faut que les sénateurs américains soient saisis, sensibilisés davantage. Même si, globalement, on sait que le gouvernement américain est au courant de ce qui se passe. Les grandes puissances sont au courant. La France, tout récemment, le président Tshisekedi était en France. Macron a toujours à condamner. On condamne, on demande le retrait. Mais on condamne, on demande le retrait. Et le M23 ne replie pas, n'arrive pas à quitter. Et donc, moi, je pense qu'il faut une nouvelle stratégie. Il faut de nouvelles approches. Et donc, c'est en cela, j'interpelle la diaspora.
La diaspora
pour qu'elle fasse un travail de fond, un travail de sensibilisation et pour sensibiliser et, n'est-ce pas, s'il faut récolter des fonds pour l'humanité d'abord, pour aider les gens qui sont, les femmes qui souffrent, les enfants qui souffrent dans les camps, qui ont été bombardés.
Mais, Eddie, ça, c'est ce qu'il est en train de dire là. Cette diaspora, est-ce que c'est la diaspora? Je sais que vous avez reçu certains membres de la diaspora hier, qui font du lobbying aussi de la diaspora congolaise. Est-ce que cette diaspora fait quelque chose?
Oui, la diaspora fait, elle fait beaucoup, mais il faut faire davantage, comme Georges l'a dit. Je vais aussi dire, parce qu'on a parlé des stratégies ici, ça va dans le sens de ce que la diaspora fait, et les gouvernements emboîtent aussi les pas. On a vu que les gouvernements en France porté mis en garde Apple. Ils vont le faire ici aussi. J'ai vu que le président et le gouvernement l'ont promis pour Tesla et les autres qui, en fait, sont, pour les gouvernements congolais, derrière cette guerre. Comme on a dit, la guerre, il y a beaucoup de stratégies pour arrêter la guerre. Ce sont des acteurs qu'on ne voit pas sur le terrain, mais qui peuvent impacter sur le Rwanda. S'ils disent au Rwanda, nous n'achetons plus de minerais stratégiques venant de votre pays parce que votre voisin vous accuse de voler, peut-être que ça peut arrêter. Donc, quand on parle des stratégies, quand on parle du gouvernement, quand on parle des diasporas, il faut aussi voir cet aspect, cet autre aspect, les lobbying, mais aussi des actions sur les acteurs qui ne sont pas visibles sur le terrain. Les grandes entreprises, les grandes compagnies, surtout qui bénéficient des minéraux stratégiques qui proviennent de ces régions, parce que en réalité la guerre aussi est alimentée
par l'économie,
par l'exploitation des minéraux stratégiques.
Voilà, on a eu en Afrique de l'Ouest les diamants de sang au Libéria, en Sierra Leone, et comme Edith nous dit, quand les Congolais se battent contre le M23 et on accuse de loin le Rwanda, ou on indexe le Rwanda qui rejette, finalement ces grandes compagnies, ces grandes firmes là continuent de profiter, et si elles sont sensibilisées sur le bien fondé de cette guerre-là, comment faire pour l'arrêter? Parce que sinon, on va pas vous vendre, vous n'aurez pas nos ressources. Je pense quelque part, si l'économie est touchée, la fibre économique est touchée, il aura un début de solution à cette guerre-là, Roger, qui n'a que trop duré.
En tout cas, je ne peux commencer qu'à vous dire merci, en tout cas, Georges Léonard Sagnon. Merci, Eddie Sango, pour le temps que vous avez accordé. On sait combien vous êtes occupé d'abord avec votre service Lingala. Merci pour ce que vous faites aussi pour VOA Afrique. Je pense qu'on va essayer de vous déranger encore cette semaine. Demain, nous allons recevoir Monsieur Kalala Kalao, qui est un membre de l'UDPS. Nous aurons aussi
un ancien collègue de du phare ou du potentiel.
Oui. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Je vois de qui vous parlez. Lui, c'est un autre. Il y a deux cas là. Je vois de qui. Ouais, qui était venu ici.
J'avais gagné un prix.
Voilà. Lui aussi, il est en Virginie, je pense. Mais demain, on l'aura aussi Kerwin Maizo, qui va parler de l'autre côté. On l'aura sur Skype, les deux. Donc, si vous avez le temps de venir avec nous demain aussi, ça sera vraiment pas mal. S'il y a une grande émission demain, ils vont réagir là-dessus.
Et Roger, un dernier mot. Oui. Les médias aussi ont un rôle à jouer. C'est-à-dire à l'interne. Les médias ont un rôle à jouer à l'interne et à l'externe.
Ah bon? Oui. Comment ça?
C'est important parce que une guerre aussi, c'est une guerre de communication. Les médias ne doivent pas prendre position pour dire on va aller se battre. Il faut que les médias commencent à poser la stratégie. Voilà, s'interroger.
On va en parler bien sûr. Merci beaucoup à Michel Joseph, merci à Rob McLean, merci à Tian Wang. C'est Tian Wang qui nous a fait la vidéo. Merci beaucoup à Nick. Merci à vous tous qui êtes restés aussi à l'écoute de cette émission. On se retrouve demain et vendredi, pourquoi pas, et jeudi et vendredi, pourquoi pas. Jobless, peace Africa.